marche pas, il court. C'est une phrase qu'on m'a dite à Noël entre la poularde et la poire pochée à propos d'un petit garçon qui devait avoir 2 ans et y avait dans la voix de son père une certaine fierté. Fierté de quoi, vous allez me demander? La fierté de la course effrénée, probablement, de la performance, parce qu'il faut bien avancer, vous comprenez, plus vite que les autres si possible. Parce que c'est peut-être le propre de l'être humain, chasseur-cueilleur, que de courir pour survivre. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est gratifiant, parce que c'est même l'une de nos résolutions préférées à chaque nouvel an. Mais honnêtement, aujourd'hui, en 2022, après quoi est-ce qu'on court, je me suis demandé. Et si, pour la plupart, on ne courait après rien? Simplement parce que ça fait du bien, parce que ça nous permet non pas de nous évader, mais de ne penser à rien. Et si la course, que l'on pratique en France par millions, ce n'était ni une fuite, ni une conquête, mais un moment étrangement vide, dans ce monde où tout a un sens, un moment dénué de sens, et un moment merveilleux parce qu'il est difficile à saisir, à capturer, à regarder, tout simplement parce qu'on est en mouvement, un moment qui nous appartient. Et j'ai voulu me retourner pour regarder ce petit garçon en train de courir et non pas de marcher. Et vous savez quoi? Ben, il avait déjà filé.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'arrête pas de courir. Il s'est imposé comme l'un des cinéastes les plus audacieux de ces 25 dernières années. Souvenez-vous de Boogie Nights, de Magnolia, de Punch Drunk Love, prix de la mise en scène à Cannes, There Will Be Blood ou Phantom Thread. Son nouveau film s'appelle Licorice Pizza. Pizza à la réglisse, c'est un chassé-croisé amoureux et désopilant, il faut bien le dire, entre une jeune femme et un adolescent, dans la Californie des années 70, sur fond de matelas à eau, d'enfants vedettes et de courses effrénées. Bonjour, Paul Thomas Anderson.
Bonjour, hello.
Merci beaucoup d'être avec nous. Avant toute chose, après quoi est-ce que vous courez, vous, en tant que cinéaste?
God, that's a great question. Oh,
quelle excellente question. Ah, vous êtes toujours...
You stump me.
That's me souffler là, c'est trop fort pour une question si tôt le matin. Ben, je dirais ça. J'aime. J'ai toujours eu une joie particulière à regarder les gens courir dans les films. Pas seulement dans les films, d'ailleurs. Je prends un grand plaisir à les regarder dans la vraie vie. Dans ce film, ça fonctionne évidemment en conjonction avec l'histoire. Mais ça donne quelque chose d'incroyablement dynamique et cinématographique à la place, disons, d'effets spéciaux à grande échelle, des explosions ou des poursuites en voiture. Si vous revenez à quelque chose d'aussi fondamental que des gens qui se déplacent l'un vers l'autre, ou qui fut quelque chose, vous avez instantanément... Eh bien, ça donne de l'ampleur à votre film.
Alors peut-être que vous courez après vos propres émotions de spectateur.
Me?
Yeah.
Ah, maybe.
Ah, peut-être. Qui sait?
À quelle scène de course de cinéma est-ce que vous pensez? Quelle scène d'anthologie?
Well, it's not just because I'm talking to
c'est pas seulement parce que je parle à quelqu'un en France, mais est-ce que la fin de Les 400 coups ne montre pas la plus belle des courses? Je pense à... En fait, non, ils ne courent pas vraiment, mais ils marchent très vite l'un vers l'autre. C'est Warren Beatty et Diane Keaton dans Reds, quand ils se voient après de nombreuses années de séparation et se retrouvent. Je pense à la course dans Rencontre du troisième type. Il y a une sorte de mouvement constant qui se produit dans ce film avec Richard Dreyfuss et Melinda Dillon.
C'est intéressant parce que ces scènes de course, elles placent d'emblée votre film Licorice Pizza sous le signe du mouvement. Et là, je pense à l'une des scènes qui ouvre ce film, un plan séquence, c'est-à-dire un plan avec une prise de vue unique, sans cut, sans rupture, où la caméra suit vos deux personnages principaux qui avancent dans une file d'attente. Et je me suis demandé, que raconte pour vous un mouvement de caméra?
Ça vous donne l'occasion de raconter votre histoire, de suivre vos personnages. Je veux dire, c'est la grande invention de la Dolly, un support de caméra sur roue, et même du stabilisateur de prise de vue sur Dolly. C'est extra. La caméra en mouvement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui m'a toujours fasciné. Les films que j'aime ont toujours tendance à suivre leurs personnages, soit en les précédents, soit en les suivants. Ça vous donne l'occasion de voir les gens se comporter véritablement sans coupe, au mieux. Ça donne une expérience plus réaliste pour le public. Et si vous pouvez créer une situation dans laquelle le public ne fait que regarder ses interprètes, alors vous avez plus de chances de ne pas leur mentir. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait. Et là, je pense tout de suite au plan séquence mémorable de la scène d'ouverture de Boogie Nights. Comment vous expliquez que certaines scènes de cinéma deviennent cultes, justement? Je me suis demandé, Paul Thomas Anderson.
J'en ai aucune idée. Vous savez, c'est drôle. Je vais vous le dire de cette manière-là. De temps en temps, quand Citizen Kane passe à la télé, je m'arrête, je regarde et je me dis, est-ce que ça peut être aussi bon qu'on le dit? Il doit y avoir quelque chose qui cloche là-dedans. Puis je m'arrête, je regarde et je me dis que Non, c'est vraiment bon. Il y a une raison pour laquelle c'est Citizen Kane. Même chose avec Casablanca. Je mentionne ces films parce que ce sont des films emblématiques et je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'ils sont absolument magiques et qu'ils ont résisté à l'épreuve du temps. Pourquoi ? J'en ai toujours pas la moindre idée. Et je vais vous dire, je ne vais pas perdre de temps à y réfléchir. Certains fonctionnent, d'autres pas.
Dans votre enfance, dans votre adolescence, quelle place avait le cinéma ?
C'était probablement l'équivalent de, de l'eau, de la nourriture, peut-être de l'oxygène. Je ne peux pas imaginer ma vie sans ça. Une chose à laquelle j'ai consacré toute ma vie, jusqu'à l'arrivée de mes enfants, c'était la chose la plus importante pour moi. J'adore ça. J'y ai consacré ma vie. Je ne peux pas imaginer faire autre chose.
Et quand est-ce que vous avez su que cette vie serait consacrée au cinéma, justement, Paul Thomas Anderson ?
Un très très jeune âge. Je me souviens. Il faut comprendre. J'ai eu la chance d'être jeune quand les films qui sortaient à cette époque étaient des films dont on parle encore aujourd'hui. French Connection, Rocky, L'Exorciste, La Guerre des Étoiles, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, Raging Bull. Je veux dire, tous ces films sont des films que j'ai vus entre l'âge de 6 et 10 ans. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes jeune et impressionnable, et ce sont les films qu'on vous montre. C'est une série d'œuvres impressionnantes qui ont véritablement façonné toute ma vie.
Une vie de cinéma qui a débuté alors que vous n'aviez que 26 ans et qui depuis a donné lieu, pour tout cinéphile qui se respecte, à un certain nombre de grands films, il faut bien l'avouer.
Action, dirt. You know, I plan on being a star.
New Line Cinema presents
Jack Horner, filmmaker, exotic pictures.
The life of a dreamer, the days of a business.
Cut, terrific.
And the nights in between, Boogie Nights.
The answer is 4, the answer is 22, the answer is gravity, the answer is the life of Samuel Johnson.
My name is Donnie Smith and I have lots of love to give.
It's not what you hope for, it's not what you deserve, it's what you take.
Magnolia.
Georgia.
This is Barry Egan.
So what do you do, Barry?
I have my own business.
Shut up! Shut up! Shut up!
I have a love in my life. It makes me stronger than anything you can imagine.
He needs me. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business.
There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me.
We'll offer $150,000 for full title.
Don't bully me, Daniel, please!
I see the worst in people.
We have a sinner with us.
Get out of here, devil!
I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own. With these, people.
And the Oscar goes to There Will Be Blood.
Answer the next series of questions without blinking your eyes.
Yes.
Are you mixed up?
No, sir.
Are you more jumpy than you were before?
No, sir.
Well, let's just see if we can help you remember what happened.
Okay.
End of session.
The Master.
You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets.
Cut!
I could do it again if you need a close-up.
Paul Thomas Anderson, c'est intéressant quand même parce qu'avec Licorice Pizza, il se trouve que vous renouez avec la vallée de San Fernando en Californie, un décor que vous connaissez bien puisque vous y avez grandi et que vous aviez déjà filmé ce lieu dans Boogie Nights, Magnolia ou encore Punch Drunk Love. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette vallée ? Qu'est-ce qu'elle a de si cinématographique à vos yeux ?
C'est marrant parce que je me demande si j'étais un cinéaste vivant à Paris, si vous me poseriez la même question, tout simplement parce que Paris est si beau, pourquoi pas le filmer ? Mais la vallée de San Fernando, c'est pas vraiment d'une beauté traditionnelle. Disons que c'est un endroit très particulier. C'est une grande banlieue. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et pourtant, je le trouve incroyablement cinématographique. C'est peut-être simplement parce que c'est là que j'ai grandi et où je fais des films depuis que je suis un enfant. D'une certaine manière, Je trouve que c'est très naturel de filmer ici. Peut-être que je le vois d'une manière que personne d'autre ne le voit. Et si je me rendais dans une autre ville, je serais un touriste. Je filmerais quelque chose que je ne connaîtrais que de seconde main. Et quand je suis ici, j'ai l'impression de tourner une vidéo familiale et ça me met à l'aise.
À quoi ressemble la lumière là-bas ?
Vous savez, il y a deux endroits qui font rêver les photographes, l'Irlande et la Californie. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Je crois que l'une des raisons pour laquelle on dit l'Irlande, c'est à cause du Gulf Stream, à cause de la façon dont les nuages arrivent et s'en vont, et de tous les événements météorologiques qui traversent l'Irlande. Vous avez évidemment vu beaucoup de beaux films. Et la Californie, en particulier dans la vallée de San Fernando, on n'a pas ça du tout. On a le smog. Il est coincé entre deux montagnes. Ou alors vous avez une lumière incroyablement dure, en particulier entre midi et 3h de l'après-midi. Mais si vous pouvez attendre jusqu'à 4 ou 5 heures et 8 heures du soir, il y a une fenêtre de 3 heures où le soleil se couche à l'ouest. Il y a quelque chose... si je pouvais le décrire, j'aurais pas besoin de le filmer. C'est simplement quelque chose de magique, je suppose. On pourrait juste signaler aussi que j'étais en train de regarder Le Bossu de Notre-Dame, le vieux film de Charles Laughton en noir et blanc. Bien sûr, vous connaissez, mais il a été tourné ici, dans la vallée de San Fernando. Il n'a pas été tourné à Paris ou dans une arrière-cour quelconque, mais moi je pouvais voir la lumière, je voyais la lumière sur le visage de Charles Laughton. Et même si c'était en noir et blanc, je l'ai reconnu immédiatement.
Mais c'est intéressant ce que vous nous dites sur la vallée, Paul Thomas Anderson, sur cette vallée. Je me suis demandé, en tant que réalisateur, mais aussi en tant que scénariste, quelle importance est-ce que vous accordez à vos expériences personnelles, à vos expériences vécues ? Dans quelle mesure est-ce qu'elles viennent alimenter votre imaginaire ?
Je suppose qu'elles l'alimentent énormément. C'est probablement pas les seules à nourrir mon imagination, mais elles font partie intégrante d'un régime équilibré qui nourrit mon imagination.
Au fond, qu'est-ce que c'est une bonne histoire pour vous ?
Le seul élément indispensable d'une bonne histoire pour moi, c'est le rire. Si une histoire ne contient pas de comédie, je suis généralement pas intéressé.
Alors comment est-ce qu'on devient un bon raconteur d'histoire ? En faisant rire, justement, en apprenant à faire rire ?
Je pense que la narration qui est nécessaire pour les films nécessite l'apprentissage de certaines bases de la narration qui semblent avoir été en place depuis de très nombreuses années. Mais le plus souvent, en vieillissant, je reviens de plus en plus sur le fait que la situation idéale pour un film, c'est d'être muet. Bien sûr, on peut utiliser le son, l'image pour raconter une histoire. C'est le but ultime. C'est un peu comme atteindre un certain niveau d'illumination. C'est assez difficile d'y parvenir. Je pense que beaucoup de réalisateurs pourraient vous dire la même chose. Nous admirons tous et nous efforçons d'atteindre un type de narration cinématographique qui est muet.
Celle qui est muette, comme une carpe dans cette émission, vous la connaissez, Paul, c'est la culture et son actualité sourde et silencieuse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 4 janvier ? Peine rentrée, c'est déjà le week-end. Le chanteur canadien Superstar a créé la surprise hier sur Twitter en annonçant la sortie imminente de Dawn FM, son prochain album attendu pour vendredi. Déjà porté par les deux singles Echoes of Silence et Die For You, le cinquième opus de l'artiste réunira une multitude de collaborations chic et surprenantes avec notamment le mythique producteur Quincy Jones, les rappeurs Tyler, The Creator et Lil Wayne ou encore le comédien Jim Carrey. Par ailleurs, on murmure que The Weeknd pourrait se produire au Stade de France cet été, si la pandémie le permet.
I'm gonna give you a break this time, but the next time I hear about you trying to set me up, I'm gonna kill your mother, your two kids, and that fat ugly bitch of yours.
Libre, Max, l'acteur américain Max Julien est mort samedi à l'âge de 89 ans. Après avoir commencé sa carrière sur les planches du Off-Broadway à New York, il était devenu l'un des acteurs fétiches de la Blaxploitation, mouvement cinématographique des années 70 qui a valorisé la culture noire américaine à l'écran. Héros des films Psych Out, Getting Straight ou encore The Mac en 1973, Max Julien restera l'un des héros du 7e art américain, célébré notamment dans les textes et morceaux d'artistes comme Snoop Dogg, Dr. Dre ou Jay-Z, R.I.P. Tout est bon dans le Capuçon. Déjà juré de l'émission Prodige sur France 2, le célèbre violoncelliste Gauthier Capuçon intensifie son accompagnement des jeunes artistes. Il vient d'annoncer qu'il lançait en ce début d'année une fondation à son nom pour accompagner et soutenir les musiciens en herbe. Cette fondation proposera ainsi des bourses d'études, des enregistrements de disques en major et puis l'accès à des premières parties de musiciens de renom. Les premiers appels à candidature seront mis en ligne dès le printemps prochain. À vos instrus, les jeunes talents.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein ?
Dessine-moi un mouton.
Enfin, dessine-moi un mouton, expose-moi un manuscrit surtout. Ce sera l'un des événements de la saison 2022. Le manuscrit original du très parfait Petit Prince de Saint-Exupéry s'apprête à être exposé pour la première fois en France au Musée des Arts Décoratifs à Paris à partir du 17 février prochain. Précieusement gardé à New York, le document n'avait jamais quitté les États-Unis, figurez-vous, depuis 1942. À l'époque, il avait été confié par l'auteur à l'une de ses amies avant de partir et de mourir à la guerre. Victime, comme vous le savez, d'un accident d'avion en 1944, ce manuscrit sera présenté en grande pompe à Paris, accompagné de près de 600 autres pièces, notamment des aquarelles et des dessins inédits. Paul Thomas Anderson, invité de Boomerang ce matin pour son formidable nouveau film Licorice Pizza. Il se trouve qu'en plus de réaliser des films, vous les écrivez, Paul Thomas Anderson. Quelle étape est-ce que c'est l'écriture d'un scénario ?
Je trouve que c'est la partie la plus importante. Et la raison pour laquelle c'est la plus importante, c'est que si c'est pas bon, il n'y a aucune chance qu'un film, enfin pour moi, puisse fonctionner. Les scènes qui sont bien écrites sont généralement faciles à tourner. Elles racontent l'histoire, elles sont claires, concises, il y a de l'humour, et elles vous propulsent vers la scène suivante. Bah, lorsqu'une scène n'est pas bien écrite, vous passez d'innombrables heures à essayer de l'arranger avec des résultats généralement décevant. C'est donc de l'arithmétique simple. Si une scène est bien écrite, il est très clair que ce sera une bonne scène.
Mais dans quelle mesure est-ce qu'une bonne scène, c'est aussi une scène qui laisse dans son écriture une marge d'improvisation ?
Oui, éventuellement. Bon, je ne suis pas du tout un militant. Vous savez, je ne suis pas du tout jugulaire quand il s'agit d'une scène. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Et plus précisément, les mots écrits doivent convenir à la bouche de l'acteur. Si un acteur ne se sent pas à l'aise pour les prononcer, alors l'auteur doit trouver d'autres mots ou encourager l'acteur à trouver d'autres mots, à les remplacer.
Justement, sur le plateau avec les comédiens, comment est-ce que vous concevez votre rôle, Paul Thomas Anderson ?
Ça recouvre beaucoup de choses. Mais la seule qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est s'asseoir près de la caméra, s'asseoir tout près d'eux, les fixer et les regarder faire leur travail. Bah, ça semble pas évident, mais vous seriez choqué et surpris d'entendre des histoires de réalisateurs qui sont distraits par d'autres choses. En passant, moi, je peux pas imaginer être distrait par autre chose. C'est l'une des grandes joies de ma vie, pouvoir m'asseoir, regarder les artistes faire ce qu'ils font, et d'être un public pour les soutenir, les encourager, ou être vraiment très franc et honnête avec eux, si ça va pas très bien, et essayer de trouver des solutions.
Pourquoi je vous parle de comédien ? Parce que vos films sont aussi très souvent à mon sens, une célébration de ce que peut l'acteur. Et je pense à cette scène extraordinaire de Julianne Moore dans La Pharmacie, dans Magnolia, au morceau de bravoure de Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood et dans Phantom Thread notamment, pour lequel on l'avait reçu d'ailleurs à ce micro. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est un acteur ou une actrice pour vous au fond.
Je suis un cinéaste qui dépend incroyablement des acteurs pour que tout ça fonctionne. Il y a beaucoup de films que j'aime, dans lesquels les acteurs sont bons, mais vous pourriez trouver n'importe qui pour tenir les rôles. Le genre de choses que j'aime, le genre de travail que je fais dépend entièrement de la performance des acteurs. Je pense que ça doit venir du fait que, bon, disons, si vous commencez et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous faites un film, vous vous rendez très vite compte que la seule chose dont les gens se soucient, ce sont les personnes qu'ils regardent à l'écran. Et j'ai tout investi dans cette idée. Il n'y a rien de plus intéressant que de voir Daniel Day-Lewis.
De quoi il est fait, Daniel Day-Lewis ?
À l'évidence, il n'est pas fait du même bois que le reste d'entre nous. Je sais pas, je connais pas la réponse à cette question. Je sais qu'il n'est pas normal, il n'est pas comme l'un des nôtres.
On va en reparler, évidemment, juste après David Bowie, Life on Mars, en 1971, sur l'album Honky Dory, que l'on retrouve sur l'excellente BO de votre film Licorice Pizza. Vous êtes sur France Inter avec Paul Thomas Anderson. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
It's a god-awful small affair.
the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Oh bah il est cinéma, hein, quelque part entre l'acteur façon Clooney et le capitaine Haddock, le cheveu ébouriffé, grisonnant, l'œil bleu lagon, le sourire Nespresso, le cinéaste américain Paul Thomas Anderson, invité de Boomerang ce matin pour son formidable nouveau film Licorice Pizza, l'histoire d'un adolescent, on le disait, de 16 ans qui tombe amoureux d'une fille de 25 ans, l'histoire de leurs aventures folles dingo dans une Amérique qui n'a pas encore vécu le premier choc pétrolier, l'histoire d'une Amérique assez insouciante somme toute, et peut-être que c'est l'un de vos films les plus légers, les plus gais. Qu'est-ce qui vous rend léger, vous, Paul Thomas Anderson?
Ma famille, mes enfants.
Et l'époque, diriez-vous qu'on était plus insouciant au début des années 70?
Je pense qu'on pourrait dire oui. Et puis tout de suite, si on y réfléchit, on se rend compte que c'est une illusion. Comme nous le savons tous, c'est très très facile de regarder en arrière, que ce soit la semaine dernière ou il y a 30 ou 40 ans, et puis de romancer une autre époque.
we can remember, some of us, at least,
et bon, certains d'entre nous au moins le feront, on peut se souvenir de toutes les bonnes choses et on oublie tout ce qui était difficile. Je pense donc que les années 70 exercent une fascination particulière sur les gens, parce qu'on se souvient avec tendresse de la bonne musique, des modes plaisantes, des bons films. Mais faut pas oublier le chemin parcouru. Et il y a une intrigue particulière dans ce film qui concerne le personnage de Benny Safdie et sa vie privée qu'il ne peut pas montrer. Ça, c'est de l'histoire récente. C'est très important de se rappeler ça. Et il n'y a pas si longtemps. Hein.
C'est passionnant. Est-ce que c'est parce que ce sont des années d'illusions, justement, que vous les avez si bien filmées dans les Licorice Pizza, mais aussi dans Boogie Nights et dans Inherent Vice?
Écoutez, j'ai aucune idée. C'est un peu comme un papillon de nuit attiré par une flamme. J'arrête pas d'y revenir parce que les détails de ces histoires, les détails qui sont exclusifs à cette époque, sont très fascinants pour moi.
Mais
bon, c'est pas drôle. Allez, c'est peut-être la dernière fois que je le fais. Je pense que je dois tourner la page des années 70.
Mais comment on fait, Paul Thomas Anderson, pour ressusciter une époque par le cinéma? Quel travail est-ce que c'est?
On doit d'abord recréer toute une période pour un film. Ça commence évidemment par la conception de la production, des lieux, et puis ça s'étend aux costumes. Mais je pense que l'une des choses les plus intelligentes que nous ayons faites sur ce film est de ne pas permettre aux acteurs de porter un maquillage. Je pense que ça contribue à l'authenticité de la période. Ah, ça serait vraiment impossible de justifier le fait que ces personnages, le personnage d'Alona en particulier, se maquillent. Alors qu'à cette époque, les filles, elles ne se maquillaient pas. Pas du tout. Il fait 38 degrés là où je vis.
Oui, c'est vrai. Et je me disais peut-être aussi un travail sur la couleur. D'un point de vue chromatique, qu'est-ce qui a caractérisé le début des années 70?
Écoutez, c'est marrant, les couleurs sont généralement un peu plus... ça dépend de la partie du monde dans laquelle vous vivez. Il y a un peu de schizophrénie quand il s'agit des couleurs. En général, on a l'impression que c'est un peu brun, un peu ennuyeux. C'est dû en grande partie à la qualité de la lumière, du moins dans la région de Californie du Sud. Nous étions couverts de smog à l'époque, avant qu'il y ait des règles sur les émissions de ce genre de choses. Je me souviens donc de mon enfance, à travers une douce lueur ambrée. En fait, c'était que du smog.
Paul Thomas Anderson, dans quel monde est-ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui? Vous qui filmez ce qui s'apparente à une fin du monde, lorsque l'Amérique est heurtée de plein fouet par le premier choc pétrolier dans ce film Licorice Pizza.
Oh, putain. Je veux dire, non. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans, pas vous?
Ouais. Ah, c'est intéressant. Mais adolescent, vous, dans les années 80, de quel monde est-ce que vous rêviez?
Je rêvais de faire des films. Je rêvais d'avoir une famille. Je rêvais de... J'ai toujours pensé que je vivrais ailleurs. Mais ce sont là les choses dont je me souviens avoir rêvé. Parce que dans les années 80, j'avais, vous savez, entre 10 et 20 ans. C'est mon adolescence. Je rêvais vraiment de faire des films et d'avoir une famille un jour.
D'ailleurs, quel genre d'adolescent est-ce que vous étiez, vous, dont le film explore cet âge qu'est l'adolescence? Je crois que c'est la première fois.
J'ai eu une adolescence très éparpillée. Je travaillais pas bien à l'école. Je trouvais ça frustrant parce que j'étais plus intéressé par la réalisation de films. Donc tout ce qui concernait pas la réalisation de films, ça me frustrait infiniment. J'étais un tas d'ennuis pour mes parents qui devaient s'en occuper.
Et il en reste quoi de cet ado aujourd'hui?
Il est grincheux et plus vieux maintenant.
Non.
Je sais pas. Je crois que c'est ce qui arrive à tout le monde, non? Vous n'avez aucune idée de l'âge que vous avez jusqu'à ce que vous regardiez dans le miroir ou quelque chose de ce genre. Je pense que nous nous promenons tous avec l'idée d'être dans l'adolescence. Et puis il y a quelque chose. Vous réalisez que vous n'avez plus autant d'énergie, quelque chose comme ça. Vous vieillissez, vous êtes fatigué. Mais dans votre esprit, je ne sais pas. Je trouve que c'est assez fréquent que les gens pensent qu'ils sont encore très jeunes.
Mais dans quelle mesure Paul Thomas Anderson filmait l'adolescence? C'est ressusciter la vôtre.
Ah, I see.
Ah,
well,
je
yes.
vois.
I mean, I, listen, oui. It certainly becomes,
écoutez,
always, no matter who you're working with,
qui que ce soit avec qui vous travaillez en tant que cinéaste, vous êtes inspiré par eux.
Are,
ils ont un peu d'éteint sur vous. C'est une des grandes joies du métier. Vous voyez, si vous travaillez avec Daniel Day-Lewis, ou si vous travaillez avec Joaquin Phoenix, c'est une collaboration. Et donc vous nourrissez l'un de l'autre. C'est un mariage, c'est une collaboration. C'est la grande joie de ce travail. Donc le faire avec Cooper, qui a 17 ans, passer du temps avec lui, et le faire aussi avec Alana, qui vous savez, c'est une jeune femme, et bien vous espérez que ça soit contagieux. Vous espérez que ça déteigne un peu sur vous. C'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'enthousiasme.
C'est drôle parce que à vous entendre, j'ai l'impression que faire du cinéma, c'est peut-être ne jamais vieillir, c'est rester à tout jamais l'enfant ou l'adolescent qu'on a été.
Well, yeah, right. I mean,
ouais, c'est vrai.
There was a great line in the Nicholas Ray movie.
Il y a une grande réplique dans le film de Nicolas Ray. C'est Humphrey Bogart. Il joue le rôle d'un scénariste. Il parle à une jeune femme qui préférait rencontrer un acteur plutôt qu'un scénariste. Et il lui dit quelque chose comme ah, vous voulez toucher à l'éternel? On peut peut-être rester jeune en étant réalisateur de films, mais vraiment, quand vous regardez un film à la télé, vous vous rendez compte que Cary Grant n'est pas mort, Jimmy Stewart est toujours en vie, il est sur ma télé. C'est ça l'éternité.
Et vous aussi, et c'est tant mieux. Merci infiniment, Paul Thomas Anderson, d'être venu dans Boomerang. Et merci à Michel There Will Be Blood Zlotowski, votre interprète ce matin. Je rappelle que Licorice Pizza, avec les formidables Alan Haim, Cooper Hoffman, mais aussi Sean Penn et Bradley Cooper, Tom Waits et Benny Safdie, entre autres, sera le 5 janvier au cinéma, c'est-à-dire demain. C'est absolument drôlatique et, à mon humble avis, tout à fait magnifique. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
That was wonderful.
Ah, c'était super. Merci beaucoup.